Soirée à ne pas manquer. Et pourquoi ne pas la combler avec votre journée de golf? Consultez la programmation sur expériencemata.ca.
Pensez à la rentrée, c'est compliqué. Prévoir la rentrée, c'est compliqué. La rentrée tout court, c'est compliqué. Entre les courses, le trafic et le retour à la routine, personne n'a envie de se compliquer la vie. Bonne nouvelle, avec Sonnet, être bien assuré, c'est pas compliqué. Gagnez en assurance en passant à Sonnet pour vos assurances habitation et auto. Vous pourriez économiser plus de 800 $. Sonnet.ca, simple comme ça.
Ne manque pas le plus gros rassemblement de Subaru au pays, le Subi Festival. Présenté par La Chute Performance, débarque à Icar Mirabel le lundi 7 septembre, jour de la fête du travail. Des centaines de Subaru en expo, des circuits de course et la chance de voir une vraie 22B. Billets en vente sur place.
À Montréal, toujours live sur le YouTube de BPM. 100% sport. Dans une ville où le hockey domine, une seule radio soulève la coupe jour après jour. Le phénomène BPM. Pendant que toutes les autres stations te parlent de ce qui va mal, ici, c'est 100% sport. Avec toujours plus d'opinions, plus de débats, plus de fun. Toujours la radio de sport numéro 1 au Canada. 91.9 BPM Sport. Partout au Québec et toujours live sur le YouTube de BPM, t'écoutes le club du matin. They wanna get mine. Fais partie du club de Montréal. 514-790-0919. 1-888-790-0919. T'écoutes le club du matin.
Le club! Bon jeudi tout le monde, bienvenue dans une autre édition du club du matin. Olivier Paiement avec vous pour les 4 prochaines heures. Merci d'être à l'écoute. Peu importe où vous êtes, peu importe de où vous nous écoutez, de Montréal au 91.9 Québec, 100.9 Gatineau, 96.5 sur l'application mobile de BPM Sport. Ou encore sur notre diffusion en direct sur YouTube. Comme à l'habitude, j'étais avec mon acolyte Hugo Reich. Comment ça va, Hugo?
Salut, Ali. Ça va super bien. Toi, comment ça va?
Ça va très bien, très bien. C'est notre avant-dernière ensemble.
C'est vrai, ça va ben trop vite. Ça n'a aucun sens.
Oui, on va essayer d'en profiter le plus possible.
Ben oui, hein? Ben oui.
Il en reste deux. On est là pour s'amuser. De toute façon, ben, c'est aussi une bonne nouvelle à travers tout ça, parce que ça veut dire que la semaine prochaine, c'est la grille régulière de BPM Sport,
oui, monsieur,
qui recommence. Une belle grille encore une fois cette année. Vous allez avoir de belles surprises aussi. Je pense que vous allez être très heureux. On a tout un show pour vous aujourd'hui. On va commencer l'émission en parlant des bombes à retardement dans la LNH. Des situations dont on ne parle peut-être pas beaucoup en ce moment, mais faites attention parce que ça pourrait dégénérer rapidement et devenir de gros sujets de discussion. Ça, on va commencer l'émission avec ça. Évidemment, on va aussi parler de NFL. Nouvelle majeure hier, le Pro Bowl, c'est enfin terminé. La NFL, qui est donc la première ligue professionnelle nord-américaine parmi les grosses, là, a posé ce geste-là, à dire, regarde, le match des étoiles, ça sert plus à rien, on passe à autre chose. Est-ce que d'autres ligues vont emboîter le pas? J'ai bien hâte de voir. Il y a aussi des villes d'expansion potentielle à l'international pour la NFL qui ont été nommées par des gens dans la ligue. J'ai hâte qu'on en parle, voir si ça a du sens ou non. Les Blue Jays qui étaient en action hier, en pleine course aux séries, les Blue Jays de Toronto, ils ont enfin gagné face aux Royals de Kansas City. C'est une excellente nouvelle, on va parler de ça. Bien évidemment aussi, vous avez peut-être vu la nouvelle tomber hier. Les Oilers d'Edmonton, la saison n'est même pas commencée. Le camp n'est même pas commencé. Et déjà, l'infirmerie est pleine. Ça part mal, ça va définitivement avoir un impact sur le début de la saison de l'équipe. On va discuter de ça un peu plus tard à l'émission avec Nicolas Saint-Pierre. Ben, c'est sa dernière chronique à Nick, et c'est évidemment notre avant-dernière journée ensemble. J'avais donc envie de faire un petit récapitulatif de l'été avec lui. Quels ont été les grands moments sportifs de l'été, les moments un peu plus décevants, qui ont été les héros sportifs de l'été, qui ont été les zéros sportifs de l'été. Ça s'en vient avec Nicolas Saint-Pierre dans un peu plus d'une heure. On a aussi une entrevue avec le receveur de passe étoile des Alouettes de Montréal, Tyson Philpott. J'ai bien hâte de lui parler. Il connaît une saison phénoménale. C'est de loin le meilleur joueur dans la Ligue canadienne de football à sa position. Le duo qu'il est avec Davis Alexander, c'est exceptionnel. Les deux connaissent des saisons historiques. J'ai bien hâte de parler de tout ça à Tyson un peu plus tard. Marco D'Amico, Jean-Sébastien D. On a aussi un autre invité spécial, c'est Phil Malo de Bulletin Sportif. Une page attitrée à la couverture du football étudiant, ben, du sport étudiant en général au Québec, mais moi j'ai envie de parler de football universitaire du RSEQ avec Phil, parce que la saison commence très bientôt. Plusieurs des équipes ont déjà commencé à disputer des matchs préparatoires. On va faire le tour des forces en présence. Est-ce que les Carabins vont être capables de répéter leur exploit? Une reconstruction à l'Université Laval, est-ce que ça veut vraiment dire que le Rouge et Or va être moins bon? Est-ce que le Rouge et Or va être en difficulté? Quelles sont peut-être les autres équipes qui pourraient challenger les Carabins ou le Rouge et Or? Bishops qui effectue son retour aussi dans la RSEQ. J'ai bien hâte de parler de tout ça avec Phil un peu plus tard. Sinon, Hugo, passez une belle journée hier.
Ben oui. Écoute, journée très ensoleillée.
J'ai vu que t'as fait du vélo.
Ben oui, j'ai profité de ça. J'ai sorti le vélo encore une fois. Ça fait du bien. Hier, j'étais allé de plus proche du coucher de soleil.
Ah!
C'est cool, c'est paisible, sérieux.
J'ai un fait peu moins
un
de
genre
monde.
De 30 km, ouais.
30 km, c'est bon,
ouais,
quand même.
Ouais, quand même.
Ça va le canal?
Non, Sainte-Julie-Boucherville.
OK.
Environ. Non, honnêtement, ça se fait bien. On a profité. On a travaillé sur quelques petites choses pour la prochaine programmation. Parce que, oui, on est en onde, mais on fait des affaires aussi pour le web tranquillement.
Ouais.
Donc, j'ai bien hâte que vous voyez tout ça. Mais, ouais.
J'espère que vous allez pouvoir le voir bientôt parce que,
ouais.
Manière ou d'une autre, ça recommence lundi matin.
Exactement.
Ce serait le fun que ce soit annoncé avant, mais
ouais,
regarde.
Exactement, mais regarde. Écoute, ça a été une journée, c'est ça, en deux temps. Un peu de travail l'après-midi, ensuite un peu de vélo, puis on a terminé ça avec une bonne petite crème glacée. Parce que c'est encore l'été, Olivier. Faut en profiter.
Ben oui, mais là, il faut en profiter, là, parce qu'il reste plus beaucoup de temps pour manger une crème glacée.
C'est ça.
Ben, évidemment, il n'y a rien qui t'empêche de manger de la crème glacée l'hiver. Là.
Ouais, c'est sûr.
Mais ça a comme un effet différent.
Je suis d'accord avec toi.
S'il n'y a pas beaucoup de feeling, là, comme une belle soirée d'été,
ouais.
Ou même pendant la journée quand il fait beau, il fait soleil, tu sors de chez toi, tu marches, tu t'en vas à la crèmerie, prends une crème glacée. As-tu déjà vu quelqu'un sortir d'une crèmerie sans être heureux? Je pense que c'est physiquement impossible. C'est un lieu là où tout le monde est content.
Ouais,
tu peux pas aller chercher une crème glacée puis pas être content.
C'est vrai que c'est une bonne observation. J'ai jamais vu quelqu'un de malheureux en sortant d'une crèmerie.
Non, parce que tu peux pas être malheureux quand tu manges de la crème glacée.
Je suis d'accord avec toi.
C'est un fait, ça.
À 100%. Ouais.
Il y a pas beaucoup de place comme ça dans la vie. Ce sont des perles, les lieux comme ça.
Faut en profiter.
Toi,
Ali, t'as-tu passé une belle journée hier?
Ouais, belle journée hier. J'étais allé m'entraîner. Moi aussi, je devais régler des affaires pour la prochaine année. Toujours le fun de faire ça. J'étais allé souper aussi au restaurant. Fait que non, c'était cool. Du poulet portugais. Ça,
oh,
c'est bon.
Ouais, t'es allé manger où?
Ça s'appelle Aquinta. C'était la première fois que j'allais là. Un restaurant portugais grillade sur charbon.
Oh boy. C'est juste
pas très loin du Port-Jacques-Cartier. Vraiment à Montréal. Vraiment, vraiment bon. Puis tu sais, des prix super raisonnables. Ça coûte tellement cher maintenant. Hein. Aller au resto.
Ah ouais, je sais.
Mais tu sais, pour ma blonde et moi, on a mangé deux consommations chaque, puis on s'en est tiré avec le pourboire en dessous de 100$, ce qui est comme.
Et tabarouette, ben oui, c'est bon.
Exceptionnel.
Ouais, c'était écœurant, ça.
J'étais à la veille d'appeler le record Guinness là, pour dire, hey, venez voir ce qui se passe ici.
C'était bonne portion.
Très bonne portion. J'adore. En plus, on a des restants.
Excellent, ça.
Voilà, ça, c'est la meilleure nouvelle.
La Quinta, ça s'appelle.
Jonathan, il dit, moi, je suis malheureux dans une crèmerie quand ma fille se met le cornet dans les cheveux. Tu vois, ça, c'est sûr qu'il y a certaines variables comme ça qui peuvent changer les circonstances. Je te comprends, Jonathan. C'est sûr que ça doit pas être bien, bien le fun. J'avoue qu'avec des enfants, là, puis là, ton enfant, il arrive, puis il y a la crème glacée littéralement partout dans la face, dans les mains. Si ça, là. Ça, ben, c'est un peu moins le fun.
Là, ouais, c'est ça. Gérer ses enfants dans la crèmerie, c'est ça peut être particulier. Mais néanmoins, t'as quand même de la bonne bouffe.
Exactement.
Et voilà.
Exactement. Bon, ben voilà, ça part pour l'édition du 27 août 2026 dans le Club du Matin. Alors, ce matin, j'avais le goût de parler de bombes à retardement dans la Ligue nationale de hockey. C'est quoi ça au juste? Ben, ce sont des situations que, pour le moment, il se passe pas grand-chose. On n'en parle pas tant que ça. Mais watch out. Attendez un petit peu. Parce que c'est le genre de situation qui pourrait dégénérer très rapidement. Des situations que si jamais il y a quelques petites choses qui se passent mal ici et là, ça pourrait devenir des gros dossiers, des grosses controverses, et ce, dès la prochaine saison dans la LNH. Je veux qu'on commence avec John Cooper, qui, oui, sa réputation n'est plus à faire. C'est pas pour rien qu'il coachait le Canada aux derniers Jeux olympiques. Deux Coupes Stanley, il vient de gagner le Jack Adams. 9 participations de suite aux séries éliminatoires avec le Lightning de Tampa Bay. Il est reconnu par pas mal tout le monde comme étant peut-être le meilleur coach de toute la LNH. Sauf que le Lightning vient de connaître 4 éliminations de suite au premier tour malgré un alignement loadé. Ce sont des joueurs vedettes à peu près toutes les positions. Si jamais ça se passe mal encore une fois pour le Lightning en série cette année, il va commencer à avoir de la chaleur sur John Cooper. Je ne suis pas en train de dire que Julien Brisebois va lui dire « Hey, bye-bye! » Mais peut-être que le moment va être venu pour un divorce parce qu'il y a une formation comme le Lightning qui a des aspirations de Coupe Stanley, un noyau qui vieillit aussi. Là. Beaucoup des gars sont rendus dans la trentaine. Ouais. Kucherov, il en reste plus tant que ça. Edmund, qui d'ailleurs fait une sortie dans les médias hier pour expliquer un peu ce qui s'était passé avec lui cette année. Il s'est ouvert sur sa santé mentale. C'était vraiment touchant. Mais lui non plus, il n'en reste pas beaucoup.
C'est vrai.
Faut que tu gagnes maintenant. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pression sur John Cooper en vue de la prochaine saison.
Oui, exactement. Surtout de la prochaine saison, je dirais. Puis l'organisation a pris des décisions aussi pour gagner maintenant. Tu sais, on a décidé de signer John Carlson aussi. Ces ajouts-là à l'effectif font en sorte que... Ben ouais, tu te rajoutes une petite pression pour que ça soit présentement le chemin vers la Coupe Stanley, mais en même temps, Eddie, on peut pas dire que s'il y a une rupture à avoir entre John Cooper et le Lightning, on peut pas dire que ça a mal été pour lui.
Non, c'est juste que présentement, avec la qualité de l'alignement, avec les attentes qui sont placées envers eux, on est en droit de s'attendre à mieux.
Ben absolument, parce qu'ils ont quand même des atouts encore très élites pour gagner une coupe cette année. Je suis d'accord avec toi
t'sais,
là-dessus.
T'as Kucherov, Point, Genzel, Eagle, Cirelli, c'est un bon joueur. En défense, ben là, ils sont allés signer John Carlson. J.J. Moser, c'est un excellent défenseur. Charles-Édouard Astou a fait du bon travail l'an passé. Andrei Vasilevski, il vient de remporter le Vezina. Cette équipe-là, elle est trop talentueuse pour avoir subi 4 éliminations de suite au premier tour. C'est inacceptable. John Cooper n'est évidemment pas le seul à blâmer, mais des fois, avec les entraîneurs-chefs, le message passe plus. T'sais, ils sont pas éternels. Ça arrive pas là, au hockey, comme tu peux le voir là, au soccer ou au football des fois. T'sais, Alex Ferguson est resté à Manchester United pendant, je sais pas, 30 ans. Ou dans la NFL, les Steelers de Pittsburgh, c'est ça. Là. T'sais, les coachs sont là pour 20-25 ans. C'est pas nécessairement ça au hockey. John Cooper, il est là depuis très longtemps. Je suis pas en train de dire que c'est pas un bon coach ou quoi que ce soit, mais je veux juste dire que si ça se passe pas encore bien pour lui cette année, ben ça se peut qu'il soit temps de passer à autre chose, peut-être même pour lui, d'aller relever un nouveau défi ailleurs.
Ça serait correct aussi, là, parce que le Lightning a gagné son lot de coupe cette année. Le Lightning a été une équipe élite dans la Ligue nationale pendant au moins 10 ans. T'sais, on n'a rien à reprocher à John Cooper.
Ouais, c'est ça. C'est juste que là, ils sont encore supposés être une équipe élite, mais ils ne montrent pas en séries éliminatoires. Quelque chose d'autre à suivre, les Jets de Winnipeg. Les assistances à Winnipeg, ça va pas bien. C'est une plus petite aréna, celle dans laquelle les Jets jouent, capacité de seulement 15 225 spectateurs. Malgré ça, et malgré le fait que, bonhomme à l'an, c'est une équipe assez compétitive, là, les Jets, écoute, il y a 2 ans, ils ont remporté le trophée des présidents. Regardez leurs assistances dans les dernières saisons. 14 228, 14 366, 13 490, 14 045. Ils n'arrivent même pas à remplir leur aréna. Il y a peut-être quelques raisons qui expliquent ça. Winnipeg, premièrement, c'est pas la plus grosse ville avec la plus grosse population. C'est pas une ville qui est super riche non plus. Mais on a déjà entendu Gary Bettman, on a déjà entendu des différents gens à travers la Ligue nationale dans le passé. C'est inquiétant. C'est pas bon ce qui se passe à Winnipeg et il faut que l'organisation trouve une façon de redorer son blason puis de s'assurer que ton petit amphithéâtre, là, remplis-le parce que sinon on va peut-être commencer à regarder ailleurs.
Ouais, exactement. Puis, par contre, c'est bon de voir que la Ligue nationale tente quand même des expériences avec le marché de Winnipeg. Là, il va avoir la classique héritage cette année avec les Jets à l'extérieur. Donc, une petite communauté intéressante à aller rejoindre qui sort un peu peut-être des sentiers de hockey là, de la ville. Mais effectivement, on doit essayer de ramener l'attention un peu vers Winnipeg parce que même si la base de partisans semble moindre, ben quand même super intéressé. C'est une banque de partisans très, très, très passionnés là-bas à Winnipeg. On le voit, on l'a vu en séries éliminatoires lors des wide-out, lorsque les autres équipes se pointent à Winnipeg, c'est quand même assez intimidant. Donc, je trouve ça dommage parce que la ville mérite un club de hockey, mais effectivement, si on n'est pas capable d'avoir une constante qui est de remplir une des plus petites arénas de la Ligue nationale, eh bien, il y a des questions à se poser, malheureusement.
Parce qu'on s'entend que Gary Bettman a jamais été super enthousiaste à l'idée de retourner à Winnipeg. Là. Lui, il voulait vraiment que ça marche en Atlanta. Finalement, il y a un propriétaire qui est arrivé qui a dit « Garde, je vais les acheter, je vais les ramener à Winnipeg parce que on sait qu'on peut avoir un certain succès minimal là-bas. » Mais c'est pas la franchise qui génère le plus de revenus pour la Ligue. Il doit pas triper non plus en voyant ce qui se passe. Et c'est aussi un avertissement pour la ville de Québec. Parce que si ça marche pas super bien à Winnipeg, puis c'est pas une équipe qui engendre énormément de revenus, ça va être quoi à Québec? Une ville qui est plus petite, une ville qui est financièrement moins prospère que celle de Winnipeg, là, c'est une plus petite ville. Fait que c'est normal. Fait Gary Bettman, il se dit, hey, si ça marche même pas tant que ça à Winnipeg, pourquoi est-ce que j'irai à Québec, moi, après?
Ouais, même s'il y a des investisseurs qui sont agressifs puis qui veulent un marché là.
Ben oui.
T'sais, on a quand même une analyse de marché à faire. Pis c'est pour ça aussi que la Ligue nationale se tourne vers les Houston, les Austin, parce qu'on
c'est
sait.
Ça. Des mégapoles.
C'est ça. On comprend l'ampleur là, du marché et on sait que même si c'est peut-être pas. Les partisans les plus passionnés, peut-être que le centre d'intérêt du hockey sera même pas dans le top 3 des sports de l'État, ben on comprend quand même qu'il va y avoir du monde qui va remplir les sièges.
Parlant de Gary Bettman, qu'est-ce qui va se passer avec lui? On n'en parle pas tant que ça non plus, mais le bon vieux Gary, là, il est rendu à 74 ans, 34 années à la tête de la LNH. Il est pas éternel. Quand est-ce que son règne va finir? Qui va le remplacer? Est-ce que la Ligue va vouloir y aller avec son éternel bras droit, Bill Daly, pour un petit peu y aller dans une continuité, vraiment pas trop déroger de ce que Gary Bettman fait depuis des années? Ou est-ce qu'on va y aller avec une embauche externe, peut-être quelqu'un d'un peu plus champ gauche, quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui va amener un vent de fraîcheur à la LNH? J'ai hâte de voir clairement. Je pense que l'expansion, là, la fameuse expansion pour les équipes 33 et 34... Ça semble être un peu le dernier leg de Gary Bettman, son dernier projet qu'il veut achever avant de se retirer. Mais ça va être gros une fois que Gary Bettman ne sera plus à la tête de la LNH.
Ben oui, ça va être gros. Et lors de tout son passage en tant que commissaire de la Ligue nationale, Gary Bettman avait pour but de faire agrandir la Ligue.
Surtout dans le sud des États-Unis.
Ouais, surtout dans le sud des États-Unis. On a essayé avec justement Phoenix... qui est arrivé, qui a quand même fait un bon bout de chemin. Finalement, on aurait dit que ça marchait plus, mais quand même, est-ce qu'on pourra dire que Gary Bettman aura accompli son objectif lorsque la Ligue nationale sera à 34 équipes pour devenir la plus grande ligue en termes de population d'équipes,
ouais.
De démographie en Amérique du Nord? Ben, certains diront peut-être que oui, certains diront peut-être que non pour différentes raisons. Je veux dire, il y a quand même une hausse du plafond salarial qui est énorme, et ça c'est une corrélation directe avec le marketing de la Ligue, avec l'engouement derrière les revenus de la Ligue nationale, et ça, ben, ça a été Gary Bettman, on peut pas lui enlever ça.
Non, c'est en tant que partisan, c'est bien correct de pas l'aimer, mais lui au final, ses boss, ce sont les propriétaires des 32 équipes de la Ligue, et eux ils sont contents parce qu'ils font plus d'argent que jamais. Ce sera ça son leg, ce sera d'avoir rendu cette Ligue-là plus prospère qu'elle ne l'a jamais été, avec les droits de télévision, avec les expansions, si ça. Donc ça va être à surveiller de près. Une autre situation dont je trouve dont on ne parle pas assez, mais à Vancouver, là, ça pourrait dérailler. C'est le genre de truc qu'il va falloir surveiller de près. Un coach qui pourrait bientôt coacher son fils. Manny Malhotra, nouvel entraîneur-chef des Canucks de Vancouver, au dernier repêchage, au troisième rang, les Canucks ont repêché son fils, Caleb Malhotra.
Mm-hmm.
Pour cette année, pas l'impression que Caleb va nécessairement commencer l'année dans la LNH. Mais c'est une question de temps avant qu'il débarque à Vancouver. Qu'est-ce que ça va donner, ça? On s'entend? Ça pourrait être un pas pire conflit d'intérêts. Est-ce qu'il va trop jouer de la carte du favoritisme envers son fils? Est-ce qu'au contraire, il va vouloir avoir l'air de ne pas faire de favoritisme et là, il va être plus exigeant envers son fils? Est-ce qu'il va avoir de la jalousie dans le vestiaire? Est-ce que les gars vont traiter Caleb Malhotra différemment, qu'ils vont pas vouloir tout lui dire? Parce que, tu sais, c'est un peu normal dans la vie, là. Quand t'es entre collègues, quand t'es entre employés, tu laisses aller un petit peu des trucs par rapport à tes patrons, des idées. Ça, c'est normal quand t'es un athlète professionnel que, ben, des fois, tu vas parler dans le dos de ton coach, puis c'est la nature humaine, c'est correct. Caleb Malhotra, comment est-ce que il va gérer cette situation-là? Bref, moi, j'ai été surpris de voir les Canucks aller dans cette direction-là parce que, juste d'un point de vue conflit d'intérêts potentiel, de ce que ça a l'air de l'extérieur, ça pourrait être assez spécial comme situation.
Oui, je suis d'accord avec toi et espérons que l'organisation a quand même pris les démarches avec Manny pour faire comprendre le point, mais aussi pour mettre vraiment là, des bons indicateurs sur le comportement, comment on doit établir ces standards-là avec l'arrivée de Caleb dans l'organisation. Et on le sait, Ali, surtout au niveau professionnel, lorsqu'un père et un fils peuvent être liés, c'est là que ben, y a des questionnements qui peuvent se
ressortir.
Mais
c'est normal, exact. C'est ton fils. Tu peux me faire croire que Manny Malhotra, c'est la personne la plus intègre sur toute la planète. Tout le monde a des billets dans la vie.
C'est
normal. Puis des fois, ça va sortir plus souvent que d'autres. Mais c'est pas vrai que t'es complètement neutre puis que Caleb Malhotra, tu vas le coacher comme si c'était n'importe quel joueur.
Non,
ça reste ton fils, c'est pis, toi qui l'as élevé.
Puis il va en avoir du mécontentement, il va en avoir pas mal. Je fais un parallèle, c'est pas la même situation, mais on peut comparer ça à Lance Stroll en Formule 1, qui son père a littéralement acheté une marque automobile pour que lui aille un volant.
Exactement,
en Formule 1.
Mais tu vois, Hugo, c'est un parallèle intéressant, puis je pense que c'est pas juste de comparer Caleb Malhotra à Lance Stroll, mais c'est un
parallèle
intéressant ce que tu fais dans la mesure où, au début, les gens ont donné une chance à Lance Stroll.
Parce qu'il était talentueux.
Parce qu'il était talentueux.
Oui.
Mais là, quand les résultats arrivaient pas, ben là, le discours a commencé de « Ah, il est juste là parce que c'est le fils à papa. » Est-ce que
c'est ça.
Je le souhaite pas du tout à Caleb Malhotra. C'est un super bon espoir. Choix top 3 au dernier repêchage.
Il a beaucoup de talent, là.
Mais est-ce qu'on pourrait en venir à une situation similaire éventuellement, c'est possible.
Ben, c'est parce que c'est une conclusion qui est vraiment, vraiment plausible, justement parce que si le rendement n'est pas là, ben c'est une question de laisser des chances, une question d'injustice envers peut-être d'autres joueurs qui vont avoir beaucoup de talent au sein de l'organisation. On s'entend, les Canucks sont en reconstruction, ils vont avoir des bons choix au repêchage dans les prochaines années. Mais là, c'est de voir qui mérite la chance à la hauteur de son talent ou à la hauteur de ce qu'il donne. C'est plus ça maintenant.
Exactement. Parmi d'autres situations qu'il faut surveiller de près, d'autres bombes à retardement dans la LNH. T'sais, on parle beaucoup de Quinn Hughes. Ah, qu'est-ce qui va se passer entre lui et le Wild? Est-ce qu'il va vouloir signer au Minnesota? Mais pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas du côté de son frère Jack? Lui aussi, éventuellement, bon, c'est dans plus longtemps, mais dans 4 ans, il va devenir joueur autonome. Lui aussi, il a envie de contrôler sa destinée. C'est très public depuis longtemps. Les frères Hughes, les trois veulent jouer ensemble. Mais lui aussi, avec les Devils du New Jersey, connaît pas le succès collectif qu'il aimerait connaître. Les Devils, en 7 ans avec Jack Hughes, ils ont seulement gagné une ronde en série et ils se sont seulement qualifiés en série 2 fois. C'est pas assez. Est-ce que, au contraire, l'attention en ce moment, elle est toute portée sur Quinn Hughes, mais est-ce que si ça continue de pas bien aller au New Jersey, ça pourrait pas être l'inverse? Ça pourrait pas être Jack qui dit « Hey, moi je suis tanné ici, là. Vous n'êtes pas capable de gagner. Vous n'êtes pas capable de bâtir une bonne équipe. Je veux m'en aller. »
Ouais, ça se peut, ça aussi, c'est sûr et certain. On s'entend que d'ici 3 ans, Jack Hughes va avoir le gros bout du bâton. Et même là, dans les 3 prochaines années, son impact, ses décisions à l'extérieur de la patinoire vont avoir un impact sur la suite pour les Devils, mais aussi pour sa carrière. Et je peux confirmer que On essaie un nouveau vent avec l'arrivée de Sonny Mettant. On essaie une nouvelle approche pour voir si on est capable de rectifier le tir rapidement et donner une équipe compétitive pour justement bien inclure Jack Hughes, bien entourer Jack Hughes afin de se rendre le plus loin possible. Mais effectivement, il y a cette question-là doit se poser parce que les Hughes semblent quand même être des joueurs qui ont pas peur de dire ce qu'ils pensent. Ont pas peur de dire aussi comment ils se ressentent face à leur organisation. Et ça, ben, ça peut être un couteau à double tranchant. Donc, autant le joueur peut créer une séparation avec l'équipe que l'équipe peut créer une séparation avec le joueur. Et ben, pour citer Jack Hughes, moi, il y a deux questions qui me viennent à l'esprit. Un, est-ce que c'est vraiment le gars de la situation au New Jersey? Et deux, si oui, pourquoi est-ce que les Devils n'ont pas réagi aussi rapidement?
Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que c'est l'homme de la situation?
Ben, je me demande vraiment si c'est le leader incontesté d'une équipe. Est-ce que c'est un gars qui peut mener une équipe vers le succès? Tu comprends?
Es-tu un gars autour duquel tu veux bâtir ta franchise?
C'est ça.
Je comprends ce que tu veux dire.
C'est plus ça.
C'est une question très légitime qui se pose parce que ça reste que Jack Hughes, tu regardes dans sa carrière, il a fait les séries une fois, puis... C'est pas par manque de talent au New Jersey, là. Il y en a des bons joueurs, là. Nico Hischier, c'est un excellent joueur de centre. Jesper Bratt aussi. C'est un des très bons ailiers de la ligue. Peut-être que la défense n'est pas idéale. Peut-être que les gardiens de but, si ça, mais écoute, la division métropolitaine est faible depuis longtemps. Puis t'as juste été capable de faire les séries une fois dans ta carrière.
C'est ça, là.
C'est pas
difficile.
Assez. C'est
non,
pas
exact.
Assez. Alors, ça va être à suivre de près aussi. Puis il rentre dans cette fameuse trame narrative-là. Des joueurs de l'équipe américaine qui ont remporté l'or aux Jeux Olympiques, qui veulent gagner, qui sont affamés. Écoute, si les Devils ratent encore les séries cette année, Jack Hughes va devoir se poser de sérieuses questions. Il va devoir se dire, qu'est-ce que je fais ici?
Ouais, surtout qu'il voit son frère bouger. Donc...
Surtout qu'il voit son frère contrôler sa destinée.
C'est ça,
Quinn Hughes, c'est comme l'exemple parfait du gars qui dit, non, c'est ma carrière, je vais faire ce que je veux avec.
Exact.
Fait que, évidemment, il est sous contrat jusqu'en 2030 avec les Devils. Fait qu'il n'y a pas nécessairement les pleins pouvoirs, mais quand même. À suivre.
Bon.
On va prendre une pause au retour. Je veux qu'on continue cet exercice-là. D'autres bombes à retardement à surveiller dans la LNH. Sidney Crosby, Chris Drury, les Rangers, les Maple Leafs, les Oilers. D'autres situations à surveiller dans la LNH, ça s'en vient après la pause.
On l'a attendu tout l'été.
Là, le CH devrait bouger bientôt. On attend l'acquisition du Canadien. Ça risque d'être gros.
Le fameux move de Kent Hughes.
Salut Ken, c'est Gilbert. Tabaslack, écoute, nous autres, la BPM, on est plus capables d'attendre, là. Peu à peu près, on y va. Nous autres, on move.
Dès le 31 août, ton starting line-up de retour. Deso, Marcotte, Gilbert, Georges, Gonzo, Greg, Ben, Max, FX, Oli et le CH. Prêt à nous redonner des frissons comme la dernière saison.
Suzuki. Oh, voilà Suzuki. A step. The puck. Shot. Score! Le tir. Et le but! Victoire des Canadiens! Alex Newhook! Propulse le CH en finale de l'Association de l'Est!
Dès le 31 août, pendant que toutes les autres stations vont parler de politique,
voilà que tout le monde vote.
Mon droit de vote.
Moi, je vote.
BPM a déjà gagné ton vote.
Moi, je choisis.
La seule radio à pas jouer la cassette.
Moi, je choisis.
La seule radio avec plus d'opinions, plus de débats, plus de CH, plus de fun.
En tout cas, moi, je vote BPM.
BPM. Expérience Mata. À seulement une heure de Montréal, notre parcours figure parmi les plus beaux au Québec. Fairway impeccable, panorama spectaculaire et une atmosphère qui donne envie de prolonger la journée. Hébergement, spa, activités nautiques, jelly ball, tout est là pour en faire une vraie escapade. Réservez votre ronde dès maintenant au expériencemata.ca.
Alors, ton latte au lait d'avoine extra chaud mais pas brûlant avec 4 doses de caramel format petit, ça va prendre 10 minutes.
Pas de stress, je m'amuse sur Playojo. Et le plaisir continue avec des machines à sous et des jeux de casino gratuits, y compris des favoris comme Big Bass Bonanza et Wolf Gold.
Voilà, ton latte au lait d'avoine extra chaud mais pas brûlant.
Merci, la pause jeu est terminée. Délicieux.
Sentir le plaisir, Playojo.
Ouvert aux personnes de 18 ans et plus, il ne s'agit pas d'un site de jeu d'argent. Jouer de façon responsable.
Mettons que t'en veux une froide, tu peux aller n'importe où. Mais si t'en veux une frette, en format 18 canettes, il y a juste un endroit où c'est possible. Marché Express! Les nouvelles caisses de 18 canettes de Coors Light arrivent en exclusivité chez Marché Express au prix de lancement de 24,99. Et pour un temps limité, obtiens 12 canettes de Coca-Cola gratuites! Mais le vrai miracle, c'est qu'il en reste encore. Alors vite chez Marché Express. Coors Light.
T'en veux une frette?
18 ans et plus. Détails en magasin. Consommez avec modération.
Allô?
Marie-Lou, toi qui es porte-parole, j'imagine que tu peux avoir des bons prix sur une Hyundai neuve.
Ah, c'est sûr, surtout pendant l'événement Repartez en Hyundai.
Ah, mais qu'est-ce que tu pourrais m'avoir?
Ben, jusqu'au 31 août, je peux t'avoir aucun paiement pendant 90 jours sur l'Elantra ou le Venue, un financement à partir de 0,99%, un boni jusqu'à 1 000 $ sur modèle sélectionné et la garantie limitée sur les véhicules neufs de 5 ans.
OK, t'es vraiment une chum.
Ouais, c'est un peu pour tout le monde, par contre. Hein? Des conditions s'appliquent, visitez HyundaiCanada.com.
La grande vente Ouattata se poursuit chez Metro. Cette semaine, profitez de rabais virés sur le top, comme le fromage Black Diamond 400 grammes à 4,97. Et les gros raisins trois couleurs sans pépins au prix membre de 1,99 la livre ou 4,39 le kilo.
Et c'est offert fraîchement.
Épargnez dans le mille sur une foule de produits seulement chez Metro.
Okay, okay, okay.
Des conditions s'appliquent, valides jusqu'au 2 septembre. Détails en magasin ou sur metro.ca. Ouattata!
Contracteur peintre, gagnez du temps et de l'argent avec Chez le peintre, l'entrepôt de peinture Sico Expert. Ça fait 50 ans qu'on le chante.
Sico, Sico par-ci, Sico, Sico par-là. On donne tous un petit coup de Sico par-ci, par-là.
Un stock immense, des prix imbattables et une expertise sur mesure pour vos chantiers. Besoin de peinture là, maintenant? Nous, on est constamment en série. On livre dans un rayon de 75 km avec nos 6 camions prêts à partir. Chez le peintre, prix, choix, expertise.
Fais partie du club. Le club du matin. Jusqu'à 10h sur BPM Sport.
Les bombes à retardement à suivre à travers la Ligue nationale de hockey. Je veux qu'on continue cet exercice-là. Des situations dont on ne parle peut-être pas assez en ce moment, mais éventuellement, attention, parce que ça pourrait dégénérer rapidement. Quand la nouvelle convention collective a été annoncée, on s'est comme juste fait dire « OK, il va y avoir 84 matchs ». Tu sais, puis on a gobé ça, puis il n'y a pas eu trop de débats, il n'y a pas eu trop de réactions par rapport à ça. Ça reste que 84 matchs, là, c'est deux matchs de plus. T'augmentes le risque de blessure, t'augmentes les chances pour les joueurs de se blesser, tu dilues aussi un petit peu le produit parce que les matchs individuellement, ils perdent un petit peu de leur signification. Évidemment, deux matchs de plus, ça veut aussi dire beaucoup d'argent. Mais c'est pas la première fois que la LNH se rend à 84 matchs. Dans les années 90, pendant une certaine période, c'était 84. Ils se sont dit « Ouais, c'est peut-être pas la meilleure des idées. » Ils sont retournés à 82. Pour le moment, il y a personne qui chiale par rapport à ça. Mais éventuellement, peut-être qu'il y a des gens qui vont commencer à être mécontents. Ça me surprendrait pas du tout.
Ouais, exactement. Puis on peut aussi, c'est ça, s'attendre à peut-être des répercussions à l'interne qui font plus mal. Peut-être pas au sein des revenus, mais effectivement, au sein de l'association des joueurs, de l'attribution des congés, même l'élaboration du calendrier. Tu sais, il y a des affaires là-dedans que ces deux matchs-là, ça a l'air de rien, mais qu'au final, peut avoir un gros impact. Et tu l'as dit, c'était quoi le surnom du hockey dans les années 90? C'était le Dead Puck Era.
Mm-hmm.
Tu sais, est-ce qu'on veut revenir à un Dead Puck Era où le jeu est plus lent, où on prend des décisions qui semblent un peu... sortie d'ordinaire pour essayer de transformer le produit un peu. Je pense pas que la Ligue nationale prend des décisions hors de l'ordinaire pour transformer le produit, parce que là, le produit semble quand même bien établi.
Non, mais on étire l'élastique.
C'est ça. C'est étirer l'élastique. C'est bien dit.
C'est comme avec l'expansion. L'élastique, tu peux l'étirer, là, mais à un moment donné, il y a ses limites, puis à un moment donné, il va péter. Fait que si tu es à 84, mais si tu as l'impression qu'on va essayer de monter à 86, 88, je le sais pas. Mais quand même, puis au final, c'est ça les négociations d'une convention collective, là. Un côté veut quelque chose, fait qu'il donne des concessions à l'autre. La LNH voulait 84 matchs, ils voulaient d'autres choses. Les joueurs ont dit « OK, mais là, on veut un allègement du code vestimentaire. » Mais regarde, tu peux porter ce que tu veux avant le match, mais t'en joues deux de plus.
Ouais, c'est ça.
C'est la décision qu'ils ont décidé de prendre. Sidney Crosby, il va se passer quoi avec lui finalement? Parce qu'écoute, à Montréal, là, on a passé quoi? 2 ans là-dessus? Sidney Crosby, il va vouloir être échangé aux Canadiens. Écoute, ça a fait de la très bonne radio pendant au moins un an et demi. Finalement, les Pingouins ont fait les séries l'an passé, donc le jeu s'est comme un petit peu calmé. Et là, j'ai même vu passer dans la dernière semaine des informations qui sont sorties du côté de Pittsburgh, comme quoi Crosby et les Pingouins, bon, ils n'ont pas encore commencé à négocier un contrat, mais ça devrait s'en venir dans les prochaines semaines, puis peut-être même d'ici le début de la saison, il va re-signer avec eux. Mais est-ce qu'il va vraiment vouloir terminer sa carrière avec les Pingouins de Pittsburgh? Tu sais, il y a encore du trémor hockey en lui, là, Crosby. Une fois que Malkin sera plus là, une fois que le temps sera plus là, est-ce qu'il va vouloir rester au sein de l'organisation? Je suis pas en train de partir des rumeurs ou ci ou ça, mais il y a un côté un petit peu romantique en moi, là, qui aimerait ça voir Sidney Crosby terminer sa carrière avec une autre franchise et soulever la coupe.
À la Raymond Bourque un peu, même
à la Raymond Bourque,
même
s'il y en a déjà trois. Tu sais, même disons s'il est capable de le faire avec une franchise puis qu'il y a une histoire particulière là, par rapport à ça. Tu sais, ça peut être
l'histoire,
je sais pas,
il aide
les Sabres à gagner leur première coupe Stanley ou il ramène une première coupe au Canada depuis 93 parce qu'à Pittsburgh, je suis désolé là, ils gagneront pas de coupe dans les cinq prochaines années, je vous le dis tout de suite.
Non, c'est sûr.
McDavid pourrait signer là demain matin puis ils gagneront pas de coupe à Pittsburgh.
Ouais, non, c'est difficile. Tu sais, j'arbore quand même du même sens que toi. Par contre, il y a quand même une partie de moi qui trouverait ça très cool qu'il termine sa carrière à Pittsburgh. On dirait avec tout ce qu'il a apporté à l'organisation.
On n'en voit plus beaucoup des joueurs faire ça.
Ben non, c'est ça, exact. Puis, tu sais, une fois justement que Malkin et Le Temps vont partir, parce que moi aussi, je crois que ça va être lui le dernier qui va partir de ce trio-là, ça serait l'ultime preuve de loyauté.
Oui.
Qui se retire en tant que pingouin. Ouais. Puis je veux dire, avec tout ce qu'il a apporté au sein de l'organisation. Puis écoute, ça, là, Ali, ça m'étonnerait même pas qu'il soit de retour rapidement comme coach, comme adjoint, comme conseiller, pour ensuite, comme peut-être même connaître une carrière en tant qu'entraîneur là-bas. Mais je crois que la vision la plus réaliste reste que Sidney Crosby se retire en tant que pingouin de Pittsburgh. Mais c'est vrai que ça pourrait créer une histoire quand même assez intéressante de le voir remporter les grands honneurs ailleurs, où il veut, puis pour une dernière fois surtout. Là, t'sais.
Chris Drury, il va garder sa job pour combien de temps, ce gars-là? Écoute, il est avec les Rangers depuis la saison 2020. Okay? Depuis que Chris Drury est à la barre des Rangers, une équipe qu'on dit « Ah, ils ont tellement d'argent, tout le monde veut jouer à New York, c'est la destination. » Chris Drury, depuis qu'il est à la tête des Rangers, ils se sont qualifiés pour les séries éliminatoires trois fois. Ils ont gagné quatre rondes. Ils ont raté les séries dans les deux dernières saisons. Il semble jouir d'une espèce de support éternel. Là. Il est intouchable, on dirait, parce qu'il est très proche de James Dolan, le propriétaire de l'équipe. Mais ça va durer combien de temps encore? Là? Il est en train de se mettre à dos. Il s'est mis à dos. Plusieurs vétérans de l'organisation, Chris Kreider, Jacob Trouba, qui ont beaucoup donné aux Rangers dans les dernières années, il s'est débarrassé d'eux comme s'ils ne valaient rien. Clairement, il y a d'autres gars aussi à l'interne qui sont encore avec les Rangers en ce moment qui ne traient pas non plus sur sa gestion humaine. Puis les succès sur la glace sont pas là non plus.
Non.
Tu sais, à la limite, s'ils traitaient les gars comme de la marde, mais que les Rangers gagnaient des Coupes Stanley, bah, ça c'est une chose.
C'est ça.
Mais là, on n'a aucun des deux. Là.
Non, c'est un
ça va
vide.
Durer combien de temps cette histoire-là?
Ouais, je sais pas. Est-ce que Chris Drury, c'est le Jerry Jones de la Ligue nationale?
Quasiment. Ben, tu sais, Jerry Jones, lui, il a l'équipe.
Oui, c'est le propriétaire.
C'est le propriétaire,
aussi,
fait que ça aide, mais Drury, il est de même avec le propriétaire de l'équipe.
Exact, là. Puis on dirait qu'il fait ce qu'il veut, qu'il semble pas avoir la langue dans sa poche, qu'il est très critique envers ses joueurs, envers ses entraîneurs. Puis, ben, tu justement, il semble intouchable, tu l'as dit. Et, ben, pour les Rangers, là, ça augure pas si bien que ça pour les prochaines années non plus. Là. Ça va pas aller de mieux en mieux. Au contraire, là, on prend des risques sur des joueurs qui sont pas établis, parce que Pavel Dorofeyev, c'est un joueur établi, mais c'est beaucoup d'argent pour un gars qui est pas constant.
T'as raison, c'est surtout des risques.
Ouais.
Ton équipe a pas fait les séries dans les dernières années et t'as dilapidé des choix au repêchage.
À fond. Là.
À fond. Pour lui, pour Marcus Pettersson, pour... Si les Rangers ratent encore les séries, là, ils vont avoir l'air épais. Il
n'y
a rien de garanti que les Rangers vont faire les séries encore une fois. Alors voilà, ça fait le tour de nos bombes à retardement. Les histoires à suivre, dont on ne parle peut-être pas assez en ce moment, mais éventuellement, ça pourrait devenir de grosses controverses dans la LNH. Et c'est maintenant le temps d'y aller du Sport Flash avec Hugo Reich.
Sport Flash.
Au US Open, Alexis Gallardo est éliminé et Bianca Andreescu poursuit son parcours. Gallardo s'est incliné en deux manches de 7-6 et 6-2 face à Dalibor Zvrinka. Il conclut une année un peu à oublier parce qu'il n'a participé à aucun tournoi du Grand Chelem cette année. Il a toujours été éliminé dans les phases de qualification. Bianca, elle, a vaincu Veronica Podrez en deux manches de 6-2 et 6-0. Elle est à seulement un gain du tableau principal du US Open. Elle qui a remporté le tournoi il y a de ça quelques années. Frédéric Anderson rentra le camp d'entraînement des Oilers. Il s'est blessé lors de ses séances d'entraînement cet été. A rappelé qu'il a signé un contrat d'un an et 2,8 millions avec l'organisation. Et ben, c'est pas le seul. Mathias Janmark, Mathieu Savoie et Alec Regula aussi vont rater le camp d'entraînement des Oilers.
McDavid doit capoter. On n'a même pas joué un match, puis on a 4 blessés.
Dont notre gardien, qui est censé être notre gardien numéro 1. Non, je sais, c'est incroyable. Et finalement, petite nouvelle NBA, Bénédicte Mathurin signe avec les Pelicans de la Nouvelle-Orléans. L'entente est de 2 ans et 8 millions de dollars par année. Il y aurait une année d'option à son contrat. Et son contrat est dans le but de que Mathurin atteigne une autonomie complète le plus rapidement possible. À rappeler que son clan a quand même dit aux Clippers de retirer son offre qualificative de 8,8 millions de dollars.
Exactement. Merci beaucoup, Hugo. On va prendre une pause et au retour, c'est le Focus NFL. Une grande nouvelle a été annoncée hier. Enfin, ça c'est fait. J'espère que les autres ligues professionnelles vont emboîter le pas. Mais aussi, ESPN a parlé à des gens qui travaillent dans la NFL pour leur demander c'est quoi les destinations les plus probables pour une expansion internationale. Il y a des destinations qui vont vous surprendre. Il y a même une ville qui est au Canada. Tout ça, ça s'en vient dans 2 minutes.
Quand c'est Honda, c'est...
Allez, allez, viens Honda!
Économisez gros durant la liquidation des modèles 2026 d'Honda Saint-Eustache. Louez une Civic à partir de seulement 89 $ par semaine durant 60 mois avec zéro comptant. Mon choix, c'est...
Chez IGA, avec la garantie prix vérifiée, profitez des plus bas prix sur les produits identifiés ou recevez la différence en .5+. Jusqu'au 2 septembre, les filets de saumon atlantique sont à 8,96 $ la livre ou 19,75 $ le kilo. IGA, on bouffe les prix. Magasin participant, détail à IGA.ca.
Tu sais que c'est la semaine Rona quand t'entends ça à la caisse. Oh, avec des rabais de même, ça va prendre un plus gros panier. Ne manquez pas la semaine Rona du 27 août au 9 septembre.
Chez Desjardins Assurance Entreprise, obtenez rapidement une soumission d'assurance adaptée à votre réalité sur desjardins.com/entreprise/assurance.
/pratique.
Demandez une soumission. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s'appliquer.
Ne manque pas le plus gros rassemblement de Subaru au pays, le Subi Festival. Présenté par La Chute Performance. Débarque à Icar Mirabel le lundi 7 septembre, jour de la fête du travail. Des centaines de Subaru en expo, des circuits de course et la chance de voir une vraie 22B. Billets en vente sur place.
Plongez dans Beast Casino, une expérience de jeu simple, rapide et immersive. Avec plus de 4400 titres, des machines à sous haut de gamme, des jeux en direct, une interface fluide et un vrai casino en direct animé par des croupiers et propulsé par Pragmatic Play Live. Visitez notre lobby de jeux pour des classiques intemporels ainsi que des nouveautés. Beast Casino offre un divertissement continu avec une sécurité de niveau professionnel. Des conditions s'appliquent, ouvertes à tous les joueurs, 18 ans et plus. Ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
Chez Promutuel Assurance, on vous offre des protections habitation adaptées à...
Excusez, c'est moi la voix de Promutuel d'habitude.
Ouais, je sais, mais ils ont été tellement bons pour assurer ma maison, ça me tentait.
Je comprends. Vous avez eu du bon service.
Mais non, c'était facile, là, super clair, puis pas cher en plus.
Ouais, c'est vrai qu'ils sont bons.
Donc, je peux finir?
Oui, on le fait ensemble.
OK.
Économisez jusqu'à 690 $
en regroupant vos assurances auto et habitation
chez l'assureur qu'on aime recommander. Des conditions s'appliquent. Promutuel Assurance et la 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 la.
Rends-toi à job avec ta première ligne d'attaque. Le Club du matin. Jusqu'à 10h sur BPM Sport.
Ready?
Let's go! Touchdown!
Ready, set, BPM, BPM, BPM!
Le Focus NFL.
Enfin, c'est fait. Le Pro Bowl, c'est fini. Il n'y en aura plus. En fait, oui, mais à moitié. Vous allez me comprendre. Évidemment, le Pro Bowl, c'est le match des étoiles essentiellement de la NFL. Ça existe depuis 1951. Et ça a eu lieu sous plein d'événements différents. Pendant longtemps, c'était l'américaine contre la nationale. Après ça, on avait des repêchages spéciaux. On a essayé dans les dernières années du flag. Mais en théorie, l'idée est bonne. Un match des étoiles, c'est cool. En pratique, au football, ça fonctionne tout simplement pas. Avec les blessures, avec les contacts, c'est tout simplement pas pratique. Les joueurs vont pas se donner, puis ça donne un spectacle qui est pourri. Le flag, c'était correct, mais honnêtement, ça a rien à voir avec le football. Bref, la NFL a annoncé hier que c'était terminé. Il y en aura plus de Pro Bowl. À la place, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont garder les distinctions. Fait qu'à la place d'organiser un match, c'est juste, OK, il y a 88 joueurs qui vont être nommés au Pro Bowl. Donc, officiellement, tu gardes ça dans ton CV essentiellement pour les clauses dans les contrats aussi. Fait que les joueurs vont être nommés au Pro Bowl, mais ils ne vont pas y participer. Il n'y aura pas de remplaçant non plus parce que c'est devenu ridicule dans les dernières années. Ouais. Tu sais, je donne un exemple. L'an passé, Shedeur Sanders a été nommé au Pro Bowl parce qu'il y avait tellement de carrières qui ne voulaient pas y participer. Shedeur Sanders de jouer comme 5 matchs pour les Browns. Ça n'avait aucun bon sens. Comment tu peux l'avoir dans ton match des étoiles? Alors, ça, c'est fini. Pour moi, c'est une excellente nouvelle parce que c'était un mauvais produit. Tu sais, on a tous en tête la fameuse vidéo là, du Pro Bowl en 2007 quand Sean Taylor, il explose un botteur de dégagement. Mais justement, c'est le genre de situation que tu veux pas voir arriver. Mais du football sans contact, c'est plate à mort. On a décidé de passer à autre chose. Je trouve que c'est une bonne nouvelle.
Ben ouais, exactement. Puis je suis content aussi que la NFL comme s'assoit un peu là-dessus puis étudie le dossier. Au final, c'était ça qu'on demandait depuis tellement longtemps. Là. Ça marchait plus. Là.
Ben oui.
Puis là, ils ont essayé justement avec des nouveaux des nouvelles compétitions d'habileté, essayer de dynamiser un peu ça. Mais écoute, c'est pas que... Écoute,
non, mais
j'ai rien contre le talent de ces joueurs-là qui participent au Pro Bowl, mais voir un O-line lancer un ballon dans une poubelle...
C'était ridicule. Va, ouais, puis ouais. Moi, je me demande si éventuellement les autres ligues sportives vont pas emboîter le pas aussi. Parce que le match des étoiles, c'est plus ce que c'était. À une certaine époque, il y avait un prestige, puis t'avais aussi peut-être des raisons événementielles aussi derrière ça. Tu sais, si tu remontes à il y a plusieurs années... Avant les réseaux sociaux, avant le fait que les matchs, avant que les matchs soient disponibles littéralement partout à la télé, t'avais pas la chance de les voir. Tu sais, Wayne Gretzky, si t'étais un fan du Canadien, tu le voyais quand il venait jouer à Montréal, puis quand le Canadien allait jouer à Edmonton. Sinon, non. Fait que de voir Wayne Gretzky sur la glace avec Mario Lemieux, avec Peter Stachny, avec si ça, ben il y avait une espèce de cachet spécial. Ouais. Maintenant, Connor McDavid, on le voit tous les matins quand on se lève, on voit ses faits saillants sur notre téléphone, on peut le regarder le soir à la télévision. T'as plus cet aspect-là. Fait que le côté marketing du match des étoiles a perdu de son lustre.
Ouais.
Les joueurs ils veulent pas se blesser. Tu sais, dans un sport de contact comme le hockey, comme le football, même le basket, qui est quand même un sport qui est intense, qui peut être physique aussi, les joueurs, ils se donnent pas vraiment. Là. C'est un espèce de spectacle qui a pas de bon sens. Je le sais qu'il y a des implications très importantes pour les partenaires, pour les différents commanditaires des ligues aussi. Mais on va devoir se rendre à l'inévitable éventuellement que cette recette-là de match des étoiles, elle fonctionne plus.
Ouais, puis je sais pas si c'est simplement la recette de match aussi en tant que telle. Parce que, admettons, tu prends justement le hockey de 3 contre 3, c'est un rythme lent. Ça vient un peu à l'antipode complet du sport, qui est un sport dynamique, physique. Mm-hmm. Par contre, il y a une manière, selon moi, de faire commercialiser, si tu veux, les compétitions d'habileté. Ça, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Puis tu peux même convertir.
C'est
peut-être...
vrai que le concours d'habileté a encore un certain cachet.
Parce que tu peux faire de quoi avec ça. Tu peux pas, tu sais, peut-être pas exagérer, mais tu sais, il y a quand même de l'anticipation derrière le concours des coups de circuit. Il y a quand même de l'anticipation.
Le dunk contest dans la NBA, c'est plus ça. Nécessairement ce que c'était, mais c'est encore un événement que, faut suivre ça.
Oui, exactement. Puis si tu enlèves le volet match, ben peut-être que tu vas donner une opportunité à des joueurs qui veulent pas participer à la compétition par prévention, ben de se faire valoir parce que c'est le seul moment, si tu veux, dans ce week-end d'étoiles-là où ils pourront être en action. T'sais.
Mais tu vois, la LNH, sans le dire publiquement, si tu regardes les gestes qu'ils sont en train de poser, ils sont en train de s'éloigner puis de se détacher du match des étoiles.
Ouais.
La Coupe des Quatre Nations, la fameuse Coupe du Monde qu'on va avoir aux 4 ans éventuellement, ouais. Les Olympiques qui reviennent dans la rotation aussi, ça c'est une façon d'éviter le match des étoiles parce qu'à la place d'en avoir un chaque année, tu te retrouves à en avoir seulement un ou deux ans.
C'est
ça.
Tu
crées un certain effet de rareté aussi. Là, on ajoute aussi cette année une tournure un peu plus compétitive avec le tournoi international de 3 contre 3,
ouais,
là, c'est ça si je me trompe pas. Mais tu vois que même la LNH... Il essaie de trouver d'autres façons de remplacer le match des étoiles, entre guillemets.
Ben, c'est ça, parce que justement, la visibilité de ces joueurs étoiles-là, comme tu l'as dit, c'est très accessible. Mm-hmm. Donc, il faut s'adapter. Et la NBA, qui, pendant toutes ces années, ont été quand même une ligue qui a été bon au niveau marketing, probablement une des meilleures là, en termes d'innovation, mais en termes d'aller chercher des nouvelles audiences, ben, on sent un peu que ça stagne aussi. Fait que c'est important d'être créatif, mais effectivement, ça part par cette réalisation-là de la NFL d'arrêter de diffuser le Pro Bowl. Et ça, je pense, ça va être super bénéfique pour les années à venir.
Exactement. Je veux qu'on regarde aussi l'expansion dans la NFL. Parce qu'il y a quelques semaines, Roger Goodell, le commissaire de la Ligue, il l'a mentionné, ça s'en vient. On va avoir des équipes à l'international. Et ESPN a donc sondé divers employés de la Ligue. Des gens qui travaillent pour la NFL, mais des gens qui travaillent pour des équipes aussi, pour aller voir, OK, vous allez aller à l'international? Où est-ce que vous allez aller? C'est quoi les marchés les plus probables? Il y en a 4. Je vous les nomme, puis je vous parle du contexte des villes aussi rapidement. Évidemment, Londres, c'est la ville où la NFL joue le plus de games. Ça, ça semble être écrit dans le ciel, là. On parlait même il y a quelques années qu'une équipe comme les Jags pourrait déménager là, mais écoute, c'est 41 matchs qui ont été organisés à Londres dans les dernières saisons. C'est une mégapole, 14,4 millions d'habitants, la capitale d'un pays évidemment qui est très très riche aussi. Le gros désavantage, c'est que c'est loin. C'est à 5200 km de la ville la plus proche, Boston. T'es à 5 heures de décalage horaire sur l'est, 8 sur l'ouest.
Ouais.
Mais les équipes sondées par ESPN disent qu'ils adorent aller là. Le voyagement, c'est pas si mal parce que c'est vraiment dans l'ouest de l'Europe. Le stade de Tottenham où beaucoup des matchs ont lieu, ça a l'air que c'est un stade qui est tout simplement fantastique. On dit que c'est à peu près 7 heures de vol de New York, 10 à 11 de LA. Clairement, c'est la destination la plus prisée par la Ligue. Côté logistique, après ça, ça engendrerait beaucoup de conséquences là, parce que là, les joueurs, ils seraient loin de chez eux, seraient pris pour faire des longs voyagements sur la route pour pas constamment faire l'aller-retour Londres-Amérique.
C'est ça.
Fait que l'équipe partirait 2-3 semaines sur la route, reviendrait à la maison pour 2-3 semaines. Pour moi, c'est très compliqué d'un point de vue logistique, mais si tu regardes parmi les 4 grosses ligues de sport, la NFL est peut-être celle qui se prête le mieux à ça parce que c'est un match par semaine.
Ben, c'est ça. C'est le rythme, en fait, qui fait en sorte que ça pourrait bien marcher. Moi, c'est vraiment aussi le décalage. Tu sais, est-ce qu'on va avoir une baisse de la qualité du produit?
Ben, t'as raison.
C'est
les
vraiment,
matchs,
vraiment ma tête.
Les matchs à Londres, là, c'est rare que t'as un bon spectacle.
Ben, c'est sûr. Tout le monde est fatigué.
Oui. Tu sais, puis il y a une partie de ça, c'est que la NFL met pas les meilleures équipes là-bas. Mais oui, non. Les gars sont fatigués. Sont dans un environnement où ils sont pas nécessairement confortables. La NFL, c'est une ligue qui est quasi entièrement domestique. Là.
Ben, c'est vrai.
99,9% de la ligue, c'est des Américains. C'est pas comme le baseball, le basket, le hockey, où t'as des gars qui viennent de partout dans le monde. La plupart ont même pas de passeport dans la NFL. Là. Ils sortent pas du pays. Fait que c'est nouveau pour eux, un environnement comme ça. Puis t'as raison qu'au niveau du spectacle, souvent, c'est pas très impressionnant, les matchs internationaux.
T'sais, imagine un match qui, une semaine, se dispute le jeudi, puis que leur match la semaine d'après, c'est le lundi soir.
Ben, c'est ça. T'as plein d'affaires avec ça qui, pour moi, complique vraiment la vie. Est-ce que les joueurs vont vouloir signer là-bas? C'est un immense déménagement à suivre. C'est pour ça où la prochaine destination, qui est beaucoup plus proche des États-Unis, elle est un peu plus logique, selon moi. Mexico City. Une autre mégapole, capitale du Mexique, bien évidemment, une ville de presque 22 millions d'habitants. Il y a eu 6 matchs qui ont été disputés là. T'es beaucoup plus proche des États-Unis. T'es à 1600 km de Dallas. Tu rentres dans le fuseau horaire de l'Amérique. Je pense que c'est à 1 ou 2 heures de la côte ouest. Même chose par la côte est. Là, c'est dans le milieu essentiellement. 2 heures et demie de vol de Dallas. 3 heures de LA. Au Mexique, les gens sont fanatiques de football. Il y en a là, des fans des Cowboys, des 49ers, des Steelers. Il y en a une tonne. On dit que Mexico aurait besoin d'un nouveau stade. Mais d'un point de vue logistique, c'est peut-être la destination la plus facile. Et surtout qu'il y a tellement d'argent au Mexique, ce serait un succès quasi instantané. C'est juste que ça revient un peu à ce que je voulais dire. Est-ce que les joueurs vont vouloir habiter là? Ça aussi, c'est un point d'interrogation.
Ouais, exactement. À moins que vraiment, là, ils créent une communauté fermée pour les joueurs, un peu comme on retrouve en Floride, là, avec les joueurs du Lightning. Pis,
exact.
Des Panthers. À moins de ça, tu sais, Mexico reste, c'est une ville quand même dangereuse. Par contre,
oui.
Il y a beaucoup d'anticipation. Comme tu dis, il y a une base de partisans très, très grande là-bas. Pis c'est un marché intéressant parce que oui, au final, il y a beaucoup d'argent. Ça peut être plausible. Tu sais, Mexico, c'est pas la première fois non plus que cette ville-là a été explorée pour des expansions un peu à l'international. Même au baseball majeur, ouais, on parlait de ça.
T'as raison. Mais c'est immense, le Mexique. Là.
C'est immense. Puis il y a vraiment une passion de la part des Mexicains par rapport au sport nord-américain. Puis il y a aussi un agrandissement d'athlètes aussi qui viennent s'inclure dans ces ligues-là. Donc, ça aussi, c'est quand même un marché intéressant, mais c'est sûr qu'il y aurait de l'argent à faire. Ça serait plus facile au niveau logistique, ça, c'est sûr et certain.
On mentionne aussi la ville de Berlin. Ça ressemble beaucoup à Londres pour différentes raisons. On dit que les Allemands, là, en particulier, sont vraiment des fanatiques. Ils adorent le football de la NFL. Le party avant les matchs est pogné, c'est vraiment cool. Un peu plus loin que Londres, évidemment, t'es à 1 heure de décalage de plus. Les vols sont plus longs, donc encore plus de logistique par rapport à tout ça. Puis que même ailleurs en Allemagne, là, notamment à Francfort, il y a beaucoup d'intérêt pour la NFL. À l'époque où tu avais la NFL Europe, ça pognait quand même en Allemagne. La 4e destination qui est mentionnée dans le texte d'ESPN, c'est peut-être celle qui est la plus intéressante pour nous. C'est la ville de Toronto.
Mm-hmm.
Une grosse ville aussi. Plus de 5 millions d'habitants. Il y a eu 6 matchs qui ont été disputés à Toronto par la NFL. Aucun depuis 2013, par contre. T'es hyper proche de Buffalo, ouais, de Détroit, de Cleveland. T'sais, t'es proche de plein d'équipes. Là. Fait que ça, c'est pas un problème. Pas de décalage horaire non plus. Pas de problème de fuseau horaire. La logistique est facile. T'as pas de stade à Toronto, mais il y a évidemment deux grosses questions. Premièrement, Toronto, l'Ontario, c'est un peu le territoire des Bills. Il y a plein de Canadiens, de gens du sud de l'Ontario,
ouais,
qui font le trajet pour chaque match, qui s'en vont au match des Bills. Eux, ils vont-tu vouloir céder ce territoire-là? Et deuxièmement, est-ce que la NFL gagne vraiment quelque chose à aller à Toronto? Le marché canadien est un peu déjà acquis par la Ligue.
Ben,
la NFL est... Est-ce que la NFL peut devenir vraiment plus populaire qu'elle l'est présentement au Canada?
C'est difficile à
peut-être
dire.
Un peu, mais pas tant que ça.
Ouais, parce qu'après le hockey, on s'entend que c'est assez dominant, tu sais. Puis mm-hmm. pour qu'on crée la Ligue canadienne, c'est parce qu'il y a un augment du
ouais,
football.
Les gens adorent
assez
le
important
foot
ici. Mais t'as raison, tu sais. Puis si on fait un parallèle un peu avec le baseball majeur, il y a une formation à Toronto parce qu'il n'y en a pas à Buffalo. C'est un peu bizarre à dire, mais vu que c'est des villes proches.
Ouais, c'est quelques heures de route.
C'est vraiment une étude de marché intéressante parce que. Je crois pas que la NFL va vouloir séparer un marché. Elle est capable de... Tu sais, on voit vraiment toute l'anticipation derrière les Bills, justement, comme
c'est
tu
ça.
L'as dit ici. Mais peut-être qu'en même temps, ça va ouvrir un autre marché pour le reste du Canada si on a une équipe canadienne dans la NFL, mm-hmm. c'est sûr. Mais je comprends aussi la peur de séparer les bases de partisans locales.
Eh, hey, mais justement, vraiment... là, je suis curieux de savoir. 514-790-0919. Si Toronto obtient une équipe de la NFL, puis vous êtes fan de la Ligue, vous aimez une autre équipe, là, disons vous aimez les Bills ou les Pats ou vous aimez les Dolphins, les Cowboys, peu importe, est-ce que vous deviendriez fan de cette équipe-là à Toronto vu que ce serait la seule équipe de notre pays, un peu comme plusieurs sont fans des
ouais.
Raptors ou des Blue Jays? Pas si sûr que ça, mais je suis curieux de vous lire. 514-790-0919. Tu vois, la plupart des gens, non. Jamais.
Ouais, non,
je resterai fan de mon équipe. C'est ce que je pensais.
C'était assez clair quand même.
Je sais ce que je pensais. Non. F Toronto. Parfait. J'aime ça. On va prendre une pause au retour. Justement, F Toronto. Ben, W Toronto parce qu'ils ont gagné hier enfin face aux Royals de Kansas City. Un match hyper important pour la course aux séries. Et surtout, il y a un joueur qui a eu sa rédemption après une erreur qui a fait très mal la veille. Ça s'en vient après la pause.
On l'a attendu tout l'été.
Là, le CH devrait bouger bientôt. On attend l'acquisition du Canadien. Ça risque d'être gros.
Le fameux move de Kent Hughes.
Salut, Kent, c'est Gilbert. Ça va, Slack. Écoute, nous autres, la BPM, on est plus capables d'attendre, là. Peu à peu près, on y va. Nous autres, on move.
Dès le 31 août, ton starting line-up de retour. Deso, Marcotte, Gilbert, Georges, Gonzo, Greg, Ben, Max, FX, Oli. Et le CH, prêt à nous redonner des frissons comme la dernière saison.
Suzuki. Oh, voilà Suzuki. A step. Caulfield. Caulfield s'avance. Et Richard score! Let's go! Headman's the puck. Shot. Score!
Dès le 31 août, pendant que toutes les autres stations vont parler de politique...
Voilà que tout le monde vote.
Mon droit de vote.
Moi, je vote.
BPM a déjà gagné ton vote.
Moi, je choisis.
La seule radio à pas jouer la cassette.
Moi, je choisis.
La seule radio avec plus d'opinions, plus de débats, plus de CH, plus de fun.
En tout cas, moi, je vote BPM.
BPM.
Allô?
Marie-Lou, toi qui es porte-parole, j'imagine que tu peux...